de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur toutes les formes d'intelligence animale, humaine et artificielle. Sommes-nous prêts à vivre en bonne intelligence avec ces autres formes d'intelligence, celles que nous commençons à peine à reconnaître aux autres animaux, celles artificielles que nous créons pour nos machines, mais jusqu'où vont-elles nous dépasser? Et si pour sortir à la fois de la peur et des fausses promesses, on se décidait enfin à mettre toutes nos intelligences au profit de cette nouvelle évolution, de cette coévolution qui s'invente de fait déjà entre les hommes, les animaux et les machines. Pourquoi et comment? Voilà ce que nous allons nous demander avec le paléoanthropologue Pascal Pic, qui plaide pour une anthropologie des intelligences dans son dernier essai « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur » et le chercheur en IA et en sciences cognitives Pierre-Yves Houdayer de l'INRIA, qui développe de nouvelles approches pour l'intelligence artificielle à travers la compréhension de nos diverses intelligences et notamment de notre insatiable curiosité autour de la question comment vivre en bonne intelligence avec toutes les formes d'intelligence. Bienvenue. Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Pierre-Yves Houdayer.
Bonjour.
Merci d'être en duplex depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux pour nous interroger donc ensemble sur toutes ces intelligences animales, humaines et artificielles. Pascal Pic, vous êtes paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France, spécialiste de l'évolution de l'homme et des grands singes, mais aussi des entreprises et même des sociétés, auteur de nombreux ouvrages à succès. Vous plaidez dans votre dernier essai pour une anthropologie des intelligences. C'est le sous-titre de votre livre « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, un drôle de titre qui vous a été inspiré par une personnalité de la robotique et de l'intelligence artificielle.
Bien sûr, c'est un grand monsieur des années 60-70, monsieur Warwick, qui avait d'ailleurs commis des expériences sur lui-même. Hein. Il avait fait des expériences qui aujourd'hui, sur le plan éthique, ne seraient pas tout à fait acceptées, mais dans ces années-là, on pouvait faire les choses. D'ailleurs, ces années folles, un petit peu, de l'intelligence artificielle à bien des égards. Et ce monsieur avait dit que ceux et celles qui ne comprendront pas les intelligences artificielles, mais je parle de ça il y a 50 ans, seront les chimpanzés du futur. Mais j'ajoute une remarque, je crois qu'ils ne connaissaient pas les intelligences des chimpanzés, où là aussi les études commencent à cette époque-là. Donc le monde a bien changé.
Depuis, et effectivement, votre postulat, votre thèse, ou en tout cas votre avertissement dans cet ouvrage, comme dans le précédent, hein, votre précédent s'intitulait « Qui va prendre le pouvoir ?» Les grands singes, les hommes politiques ou les robots, vous nous préveniez déjà que si nous n'étions pas capables de comprendre les intelligences des grands singes, notamment, nous allions être en mauvaise posture face à cette intelligence artificielle.
Bien sûr, parce que l'ignorance et le mépris, c'est la source de toutes les angoisses, l'incapacité de comprendre ce qui se passe. Et puis, surtout, nous sommes dans l'héritage, quand même, surtout en France, hein, c'est assez marqué. Pourtant, nous sommes un grand pays scientifique, technique, ça, il n'y a pas de souci à cet égard. Mais néanmoins, en tant qu'anthropologue, il y a toujours des fonds anthropologiques qui prédominent dans la manière d'appréhender les choses. Donc, c'est vraiment un livre d'anthropologie sur ces intelligences. C'est que, n'étant pas capable de comprendre ce que sont ces autres intelligences animales, sachant que celle des chimpanzés est beaucoup plus proche de la nôtre qu'elle n'est de celle des dauphins ou des chiens qui ont leurs intelligences ou autres. Donc déjà, vous avez remarqué, nous parlons des intelligences animales, il n'y en a pas une. Et de la même façon, nous avons le même problème avec les intelligences artificielles, parce qu'il y a une grande diversité d'intelligences artificielles. Il y a trois courants principaux, mais sans en avoir parlé.
Il faut vraiment en parler au pluriel.
Au pluriel. Et donc, vous savez, les théories de l'évolution, les théories de Charles Darwin, c'est quoi au bout du compte? Parce qu'on dit des grosses bêtises sur Darwin. C'est une théorie des variations et des diversités. Et c'est comment les variations et les diversités interagissent, se choisissent, non pas s'éliminent, mais favorisent certaines variations par rapport à d'autres. Et donc, pour apprendre le monde de demain, c'est être capable d'avoir une expertise un peu plus éclairée sur cette diversité d'intelligence pour être armé. Quand je dis armé, c'est un petit peu violent, mais en tout cas, pour avoir les armées conceptuellement et ne pas s'angoisser, et surtout, s'il y a des risques, de bien évaluer les risques possibles ou potentiels. Et il y en a déjà.
C'est ça, c'est pour sortir au fond de nos peurs infondées,
exactement.
Ou plutôt mal placées, pas appropriées, et bien cibler les vrais risques. Pierre-Yves Houdayer, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives à INRIA. Vous êtes directeur du laboratoire interdisciplinaire Flowers. Vous venez de recevoir le prix Jeune chercheur de l'Académie des sciences pour vos travaux novateurs sur l'apprentissage profond en lien avec la curiosité. Alors pour faire simple, hein, vous me direz si je fais trop simple, disons que vos recherches en intelligence artificielle vous ont amené à travailler sur notre intelligence humaine, sur notre capacité d'apprentissage du langage, et vous êtes même remonté aux sources de la parole, ça c'était le titre de votre essai, en mettant en lumière notre insatiable curiosité naturelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette curiosité-là qui ferait la différence entre toutes ces intelligences ?
Alors, en fait, je ne sais pas si essayer de faire des différences entre les intelligences, finalement, c'est ce qu'il y a de plus facile ou même de plus productif, peut-être, que c'est de trouver des similarités qui peut-être nous aider à mieux progresser, à mieux comprendre. Et justement, en réalité, je suis effectivement chercheur en intelligence artificielle, mais mon objet premier de recherche, c'est de manière générale l'intelligence, la manière dont elle grandit, et en particulier la manière dont elle grandit chez l'être humain. Mais le cerveau de l'humain, c'est peut-être l'une des structures les plus compliquées de l'univers qui nous entoure. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les structures de l'univers qui nous entoure, qui sont compliquées, on ne peut pas simplement essayer de les comprendre juste en les observant. Par exemple, observer les galaxies avec un télescope. On a besoin aussi d'essayer de construire des machines pour les modéliser. De construire, par exemple, des modèles des galaxies lointaines. Et puis, de la même manière, essayer de construire des modèles de certains aspects du fonctionnement du cerveau. Et effectivement, comme vous le disiez, la curiosité, la capacité par exemple d'un enfant à explorer spontanément son environnement et à essayer de le découvrir, ça semble être un des mécanismes très très importants pour qu'il acquiert au fil des années des savoir-faire très variés. Mais c'est quelque chose qui est encore très mystérieux, qu'on comprend mal, et c'est ce qui nous a amené à essayer de comprendre, de modéliser avec des machines certains des aspects de ces mécanismes d'exploration, de comprendre par exemple comment est-ce que un robot, eh bien quel type de mécanisme pourrait l'amener à faire bouger, à explorer son corps pour apprendre à se mouvoir, apprendre à attraper des objets, apprendre les premiers mots du langage et essayer de comprendre comment cette transition, ce développement peut se passer chez l'enfant.
En fait, c'est s'inspirer de toutes les intelligences pour en former d'autres. Enfin, c'est à la fois mieux comprendre la nôtre pour pouvoir en motiver d'autres.
Alors, ce qui est très important toujours, c'est d'essayer de prendre du recul par rapport à un objet qu'on étudie. Et si l'objet qu'on étudie, c'est l'intelligence, prendre du recul, ça peut être justement construire ou observer d'autres formes d'intelligence ou qui fonctionnent sur des principes ou sur des matériaux qui ne sont pas les mêmes. Alors, évidemment, quelque chose qui est très important, c'est d'observer les autres intelligences du monde vivant. Les intelligences des animaux qui ne sont pas humains, c'est quelque chose d'extrêmement éclairant pour mieux comprendre l'intelligence des hommes. Mais ce n'est pas la seule manière. On peut aussi prendre du recul en essayant de construire des machines qui vont avoir des capacités d'adaptation, des capacités d'apprentissage, des capacités de décision, de mémoire, vont avoir certaines similarités avec celles des humains ou d'autres animaux, mais aussi effectivement avoir des différences. Et c'est l'observation, la réflexion sur ces similarités et ces différences qui sont un outil qui peut nous aider à progresser pour mieux comprendre une forme d'intelligence, celle de l'humain ou celle d'un autre animal en particulier.
Autour de la question, sommes-nous prêts justement à associer nos intelligences animales, humaines et artificielles pour vivre en bonne intelligence ? Justement, reste à s'entendre sur les termes qu'on utilise. On s'interroge tout de suite sur toutes ces intelligences avec le mix intelligible et forcément intelligent d'Hugo Violas.
C'est quoi l'intelligence ?
C'est la capacité d'adaptation. C'est donc être capable d'avoir une réponse adaptée en fonction des exigences de notre environnement.
Quand on construit un objet intelligent ou quand on essaye de modéliser l'intelligence du cerveau, on est contraint par nos propres connaissances sur le cerveau ou sur ce qu'on imagine de comment fonctionne le cerveau.
La pieuvre géante du Pacifique est un animal calculateur et intelligent. Rien d'étonnant à cela. La pieuvre possède 9 cerveaux. Un dans la tête et un dans chacun des centres névralgiques de ses 8 bras qui contrôlent ses mouvements.
Schubert ne l'avait pas terminé, mais l'ordinateur l'a fait.
La 8e symphonie du compositeur allemand est sa plus célèbre, connue sous le nom de symphonie inachevée.
Bah oui.
Près de 200 ans après la mort de Schubert, le géant de la téléphonie chinoise Huawei s'est lancé un défi, mettre un point d'orgue, un point final à cette partition, pour mettre en avant la virtuosité de ces spécialistes de l'intelligence artificielle, puisque c'est un smartphone, paraît-il, qui a composé les dernières pages.
La La symphonie inachevée de Schubert, achevée par l'intelligence artificielle d'un smartphone. Ça vous inspire quoi, Pascal Pic ?
Eh bien, ça montre bien comment ça peut fonctionner, parce qu'effectivement, on a un exemple que je cite dans mon livre, qui est très connu, ce qu'on appelle le New Rembrandt, le nouveau Rembrandt, où là, on a nourri la machine avec tous les tableaux de Rembrandt, avec tous les critères qu'elle pouvait tirer, donc les configurations, les formes, les grandes lignes, les épaisseurs de peinture, les couleurs, enfin bref, toutes les techniques qui étaient employées. Et on a demandé à cette machine, après plusieurs essais, parce qu'on donne que les essais qui ont réussi, mais en tout cas, elle a sorti un tableau, qui est l'homme au chapeau, qui défie toutes les expertises des meilleurs spécialistes de l'art. Donc, en définitive, que se passe-t-il ? C'est que ces intelligences artificielles, avec l'apprentissage profond, mais ça, Pierre-Yves en parlera mieux que moi, sont capables, en fait, de trouver des éléments qui nous échappent d'ailleurs, qui sont très difficiles à mettre en évidence, qu'on appelle l'induction. En fait, c'est quoi ? Il y a trois façons de réfléchir, hein, qui ont été mises en place par Aristote, qu'on connaît depuis Aristote, qui est la déduction, qui est logico-mathématique. L'induction, c'est comment à partir d'un ensemble de données, on est capable de faire ressortir des schémas sous-jacents. Et c'est là que ce qu'on appelle la nouvelle intelligence artificielle, avec l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, avec différentes techniques, bien sûr, sont capables de faire ressortir les choses. Et donc la logique, effectivement, c'était qu'ensuite, pour cette symphonie, je pense que la technique est bien rodée, comme pour la peinture, c'est que la machine était capable de ressortir un ensemble de critères qui lui sont plus ou moins propres. Alors, on ne sait pas comment elle fait dans la plupart des cas. Des fois, on sait. Des fois, on ne sait pas comment elle fait. Et donc, de prolonger donc, la symphonie et de donner quelque chose de tout à fait cohérent.
Mais donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence dans ce cas-là ?
Ben oui.
Vous revenez là-dessus, toutes ces intelligences. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment vous définiriez l'intelligence ? Celle des chimpanzés ou des grands singes,
par exemple ? Celle des chimpanzés, c'est comme la nôtre. Hein, je veux dire, c'est pour ça que l'intelligence animale n'a aucun sens. Celle des chimpanzés est beaucoup plus proche de la nôtre, à bien des égards. Et par contre, celle de la pieuvre qu'on a citée est très différente de la nôtre, mais elle est dans un environnement, des perceptions, avec la façon de capter l'environnement radicalement différent. Pareil pour les dauphins. Donc, si l'intelligence... Alors ça, c'est un vrai problème, parce qu'en France, on a beaucoup de gens qui critiquent du côté des sciences humaines et de la philosophie, disent non, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ouais. Mais ce sont les mêmes qui disent qu'il n'y a pas d'intelligence animale, vous voyez ce que je veux dire ? Alors au bout d'un moment, il faudra que ces gens soient honnêtes et qu'ils nous disent d'où vient l'intelligence. Forcément, ça va être Dieu. Donc on a une espèce de métaphysique, de crypto-créationniste qui traîne sur nos médias avec de grands philosophes que je ne vais pas citer pour ne pas les peiner, mais il y a quand même une espèce d'hypocrisie derrière cela. Et si on parle d'intelligence, c'est plutôt dans le terme anglo-saxon. Intelligence service, CIA. C'est-à-dire, si, comme ça a été dit dans votre...
Capacité de s'adapter.
Capacité de s'adapter et de trouver des solutions. Et c'est ça qui est une caractéristique essentielle de l'intelligence des animaux et des humains, c'est que nous avons un cerveau qui est capable, parce que l'environnement change tout le temps, de s'adapter toujours à de nouvelles situations, donc de résoudre des questions. Donc dans ce sens-là, c'est l'intelligence. Maintenant, si on va sur l'âme, etc., c'est une autre affaire. Donc ça, c'est un des gros enjeux donc, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, mais c'est pas demain la veille. Mais pour l'instant, on peut parler d'intelligence si on reste sur cette définition que je vous l'accorde, réductionniste mais fonctionnelle, et sur laquelle on peut travailler en tout cas.
Pierre-Yves Houdayé, sur cette définition de l'intelligence comme capacité à s'adapter, ça vous va aussi comme définition de l'intelligence ?
Alors, deux commentaires. Alors, de manière générale, effectivement, probablement que l'une des meilleures manières de concevoir l'intelligence, c'est pas la capacité à résoudre un problème difficile à un moment donné, par exemple jouer aux échecs, jouer aux jeux de go, par exemple, ou prouver un théorème de maths, c'est plutôt la capacité à s'adapter à des environnements qui changent assez vite, à apprendre de nouvelles choses. Chez les enfants, par exemple, l'intelligence remarquable qu'ils montrent, c'est pas le fait que certains d'entre eux, peut-être un jour, deviendront des grands mathématiciens. C'est le fait que tous les enfants, quasiment aucune exception, apprennent à marcher, apprennent à parler, apprennent à interagir de manière simple avec leur environnement social. Et c'est ça qui est absolument remarquable.
Oui, qu'on ne remarque même plus, on trouve ça normal, mais c'est remarquable.
C'est extraordinaire. Mmh. Alors que c'est complètement extraordinaire. Alors une deuxième remarque néanmoins, pour revenir tout à l'heure à l'exemple de la machine dont on disait qu'elle composait...
Elle finissait la symphonie de Schubert. Oui.
Voilà, c'est ça. Il faut faire attention à la manière dont on le dit. Mmh. C'est pas la machine qui a composé la fin de ce morceau. En réalité, la machine, dans ce cas-là, elle est un outil cognitif qui a été utilisé par un humain qui a fourni en exemple des morceaux de musique qu'il a choisis. hein, qu'il a choisi et qui lui ont permis à cette machine de détecter certaines régularités pour produire eh bien voilà, de nouvelles séquences de notes qui ressemblent à ces régularités. Et dans ce contexte-là, l'artiste, c'est pas la machine, c'est l'humain qui a fourni ces exemples à cet outil cognitif.
Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut parler d'intelligence artificielle ou d'outils simplement?
Je pense qu'il est beaucoup plus exact de parler d'outils. C'est un outil sophistiqué, c'est un outil cognitif, et de l'interaction entre cet outil et un humain, eh bien, peuvent ressortir des créations qui peuvent être plus originales, aller plus loin que celles que l'humain aurait fait sans l'outil. Mais par contre, je pense qu'il n'est pas juste de dire que c'est la machine qui a fait preuve de création artistique. Non, la machine était un outil au service de l'humain, et c'est l'interaction entre l'humain et la machine qui a permis une nouvelle création artistique.
C'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'effectivement, cette collaboration entre ce qu'elle peut nous apporter, et évidemment, c'est bien de le rappeler, donc il y avait derrière quand même des personnes qui connaissaient Schubert. Donc c'est ça, et donc ça c'est des collaborations nouvelles.
Et c'est vraiment toute l'ambiguïté aussi de ce terme d'intelligence artificielle, c'est aussi parfois ce qui nous fait peur, parce qu'au fond, on a l'impression qu'on donne trop de pouvoir aux machines, ou pas assez. Vous citez aussi Pascal Pic dans votre ouvrage, le primatologue Franz De Waal, et cet ouvrage excellent, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Mais j'ai envie de dire, sommes-nous trop bêtes pour comprendre les différentes formes d'intelligence, finalement?
Alors, que ce soit trop bête pour comprendre les intelligences des animaux, ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on retombe aussi dans des travers anthropologiques, dans ce sens où, surtout dans la culture occidentale, et surtout en France, malheureusement, à part quelques exceptions comme Yann Lequin ou Pierre-Yves, il y a une approche très technicienne, très mathématique, très épurée, qui, en fait, revendique le fait de se dire « la nature ne peut rien nous apporter ». Or, ça a été répété plusieurs fois par Pierre-Yves. Et dès le départ, d'ailleurs, Alan Turing, en 1950, dans son papier séminal, il disait « Non, moi, je ne veux pas un cerveau qui est tout fait. Je veux un cerveau comme un enfant, c'est-à-dire des machines auto-apprenantes. »
Les machines auto-apprenantes, c'est quand même comme ça.
C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter. Alors, ce n'était pas les concepts exactement de l'époque, parce qu'on est vraiment tout au début. Mais là, la chose importante, c'est que là, on retrouve ce qu'on appelle l'ontogenèse. Donc, je rappelle dans mon livre qu'effectivement, comment se sont construits les intelligences humaines et animales plus ou moins proches de nous. Eh bien, on le sait maintenant avec les sciences cognitives, c'est lié aussi à la perception de l'environnement, à ce qu'on mange, mais aussi au mouvement. Et ça, ça va être un enjeu absolument considérable pour la robotique de demain, ce qu'on appelle aussi la nouvelle intelligence artificielle. Enfin, il y a plein de termes comme ça qui ne sont pas très bien définis, d'ailleurs, au passage. Mais on peut s'attendre avec ce qu'on connaît de mieux en mieux sur l'ontogenèse, donc la construction de l'individu, son intelligence, le langage et la marche de nos jeunes enfants, ça va apporter certainement des choses considérables qui sont d'ailleurs décryptées grâce à différentes formes d'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle et pour comprendre les humains. Donc c'est pour ça, c'est comme la symphonie, on est dans des processus coévolutifs qui interfèrent les uns avec les autres. Par contre, effectivement, il y a autre chose, on a eu tendance à mépriser les animaux, et d'un seul coup, comme les machines sont des créations humaines, on a tendance à les vénérer. Donc c'est le mythe de Pygmalion.
Donc faisons attention, on va passer d'un extrême à l'autre.
Et donc c'est ni l'un ni l'autre.
Autour de la question comment coévoluer justement avec les autres intelligences animales et artificielles, on continue de s'interroger en écoutant Yodelis sur RFI, Monkeys Evolution. C'est pour vous, Pascal Pic.
Hello, hello, I've been weak for weeks. Hello, hello, is there some hello, hello, can you hear me? Hello, hello, can you feel me? No.
Autour de la question. Caroline Lachowski.
Yodeli sur RFI, Monkeys Evolution. Autour de la question, sommes-nous prêts à vivre en bonne intelligence avec les autres formes d'intelligence, animale et artificielle? Nous sommes en compagnie du paléoanthropologue Pascal Pic et du chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives Pierre-Yves Oudéyé. Je propose tout de suite un nouvel éclairage, c'est celui de l'éthologue Luc-Alain Giraldo, spécialiste des pigeons, aujourd'hui directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique au Québec.
D'abord, l'intelligence, est-ce que ça existe en dehors des humains? Parce qu'on l'a tellement défini par rapport à nos propres capacités que sommes-nous même capables de reconnaître une intelligence qui ne serait pas humaine? Je pense que c'est fondamental comme question. Comment la reconnaître? Parce que toutes les définitions de l'intelligence sont par rapport à nos propres capacités cognitives. Or, un animal qui serait, par exemple, capable de réfléchir en 8 dimensions, comment on le saurait? Qu'est-ce qu'on ferait comme test? On n'y a même pas pensé que ce serait possible. Le premier qui a pensé que peut-être les chauves-souris utilisaient le sonar, il fallait qu'il soit génial pour penser un truc pareil. Mais il y en a plein de trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas s'imaginer parce qu'on est trop pris avec ce que nous sommes, nous, humains, que même de penser à définir l'intelligence des animaux, c'est une préoccupation profondément humaine. À quel point de degré est-ce que cet animal nous ressemble? Le rat est à 0.4, le chimpanzé est à 0.95, l'orang-outan est à 0.82, mais ça nous apprend quoi exactement? Il y a plein de choses que le rat fait qu'on n'en a aucune idée. Cette diversité que nous sous-estimons de la cognition animale, de la capacité des animaux de repenser le monde dans lequel ils vivent, et c'est incommunicable. On n'y a pas accès à ça.
Vous voulez réagir, Pascal Pic?
Oui, j'aime beaucoup nos amis québécois, mais enfin quand même, ces questions du rapport au monde et des constructions de monde, c'était très bien posé par l'éthologie depuis 60 ans, notamment par Jacob van Neskuld. Puis d'ailleurs, c'est un article célèbre de sciences cognitives, je sais plus quel est son nom, je le cite dans le bouquin, mais qu'importe, justement parce qu'on parlait des chauves-souris, c'est-à-dire comment les chauves-souris voient le monde, c'est un monsieur Nadel, voilà. Et donc il disait, attention, nos capacités cognitives, nos intelligences ont été co-construites dans l'évolution avec nos environnements, nos modes de déplacement, nos sociétés. Donc en effet, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que Pierre-Yves sera d'accord, que le fait qu'on soit capable de comprendre qu'aujourd'hui, que certaines formes d'intelligence artificielle, parce que c'est les hommes qui les ont fait, c'est ça que ça veut dire, artificielle, nous apportent des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, vont ouvrir notre esprit et notre façon d'aborder peut-être des formes d'intelligence animale d'une manière peut-être plus ouverte, plus prospective, avec de meilleures hypothèses. Donc c'est ça ce monde qui arrive. C'est pour ça que je plaide pour une anthropologie des intelligences, parce que on va connaître un monde absolument fascinant par rapport à ça. Bien sûr, on parlera un petit peu des angoisses par rapport aux machines, mais c'est pas là l'essentiel. On voit bien comment on avance très fort. Et puis quand on parle des animaux, là aussi on est centré, c'est normal. C'était très bien dit par notre collègue québécois, de l'intelligence humaine, qu'on a mis au centre de tout. C'est vrai qu'elle est bien, mais enfin quand même, bon, on l'a mis au centre de tout. Mais là, regardez, dans l'histoire qui est en train d'émerger des véhicules autonomes, ça va être un sacré bazar. Déjà, la circulation sur le plancher des vaches, c'est pas évident. Donc, il est très clair que là aussi, on a ce qu'on appelle des algorithmes des essaims, ça s'appelle swarm algorithm. C'est-à-dire, comment on est capable de... les principes mathématiques sont simples, mais il fallait des puissances de travail importantes. C'est ça aussi l'intelligence artificielle. C'est souvent des opérations simples, mais qui peuvent être traitées beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement. Voilà, donc ça, il faut le rappeler également. Et derrière cela, par exemple, comment un vol des tourneaux fait que chaque oiseau, sont des centaines, arrive à maintenir la distance moyenne, etc., vous imaginez, pour les véhicules. Donc, en définitive, il y a toute
c'est de l'intelligence collective, là, que ça
voilà, permettrait
de...
Voilà, mais elle n'est pas consciente, celle-là, vous voyez. Comprendre. Et donc, ce qui est absolument fascinant aujourd'hui, c'est que nous allons aborder de nouveaux champs de la connaissance qui sont de plus en plus bio-inspirés. Alors d'ailleurs, ce qui m'a surpris en faisant ce livre, c'est que l'imitation, ce qu'on appelle les neurones artificiels, qui ne sont pas des puces, hein, ce sont en fait des fonctions mathématiques, mais en fait, ça commençait même avant l'article d'Alan Turing en 1943. Et donc, vous avez toute une branche de l'intelligence artificielle, celle que certainement représente Pierre-Yves, enfin même, j'en suis même certain, d'ailleurs, parce que j'écoute...
Qui est bio-inspiré.
Qui est complètement bio-inspiré, mais bio-inspiré, ça ne veut pas imiter, c'est-à-dire prendre des concepts qui nous inspirent, c'est le cas d'Yann Lequin, c'est le cas aussi de M. Yego, etc. Donc voilà. Donc il y a toute une branche aujourd'hui qui est... Et c'est ça pourquoi je plaide. On est en train d'assister à une convergence à laquelle je travaille, de mon côté, mais Pierre-Yves de son côté aussi, entre les théories de l'évolution et donc tout ce qui est lié donc à l'informatique et aux sciences informatiques et aux intelligences artificielles.
Pierre-Yves Houdayer, quels seraient, comment dire, les plus grands problèmes ou les plus grandes difficultés des machines pour vous qui travaillez sur l'intelligence artificielle, qui essayez donc du coup de comprendre notre intelligence humaine pour l'appliquer peut-être plus aux machines?
Ben justement, ce qui est assez intéressant et qui rejoint cette discussion, c'est que pendant très longtemps, on a essayé de construire des machines entre guillemets intelligentes en se donnant pour objectif de leur faire réaliser des tâches pour lesquelles on pensait que les humains, quand ils les résolvent, sont intelligents. Par exemple, apprendre à devenir champion du monde au jeu de Go, apprendre à résoudre des preuves de mathématiques. Et puis, on s'est aperçu, ben par exemple, récemment, on a eu des machines qui ont battu les meilleurs joueurs du monde au jeu de Go. On pensait ça complètement impossible jusqu'à récemment. C'est un jeu extrêmement compliqué. Les champions du monde du jeu de Go, qui est beaucoup plus difficile encore que le jeu d'échecs, ils disaient que c'était pas possible que leur raisonnement, leur manière de jouer se basait sur une intuition développée pendant des années, que c'était pas possible que des machines résolvent ces jeux. Et puis finalement, il y a des machines qui ont été développées
et qui ont réussi à battre les champions du monde de Go.
Mais par contre, ce qu'on s'est aperçu, parce qu'évidemment, l'avantage de construire une machine, c'est qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans, puisque c'est nous qui l'avons construite. Et donc, on peut l'ouvrir, on peut décortiquer, on peut analyser ce qui s'est passé. Et puis, en regardant ce qui se passe, et en particulier quand on l'explique à des joueurs de Go, on s'aperçoit que la machine fonctionne de manière totalement différente de la manière dont le cerveau humain a appris à jouer au jeu de Go et à développer ses propres intuitions. Donc déjà, ça donne une première idée de la diversité de la manière de résoudre des problèmes et que peut-être justement, des problèmes comme le jeu de Go, c'était pas là qu'il y avait...
Pas le plus compliqué pour une intelligence artificielle.
Voilà. Et c'est ça qui a amené progressivement un certain nombre de chercheurs dans la communauté scientifique à se dire, mais peut-être que les défis les plus grands, ceux qui sont les plus mystérieux, c'est de comprendre comment... l'enfant, que ce soit l'enfant humain ou l'enfant animal, quand il vient au monde et qu'il ne l'a pas encore vu, il arrive très vite à percevoir des objets, à marcher, à attraper des objets, à apprendre les premiers mots, à s'adapter à des environnements changeants. Et par exemple, tout simplement de faire marcher une machine sur deux pattes, sur quatre pattes, ça fait des dizaines d'années qu'on essaye de le faire et ça n'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, qu'on commence un tout petit peu à construire des machines qui arrivent par exemple à marcher comme un faon, comme une chèvre, comme une brebis, et ça a nécessité des efforts considérables.
Plus complexe ou l'intelligence la plus complexe à apprendre, à intégrer, c'est celle qui parfois, enfin pour les humains ou les animaux, est la plus évidente, la plus simple.
Qui est la plus commune, la plus fréquente en tout cas. Et la marche, peut-être qu'on commence un tout petit peu à comprendre comment ça fonctionne, mais tout simplement des choses comme le langage naturel dans un contexte du monde réel, du monde physique, c'est quelque chose dont on est très loin de comprendre. Une machine, peut-être aujourd'hui, avec le langage naturel, elle va être capable, quand on lui parle, de réserver un billet d'avion, de mettre un rendez-vous sur un emploi du temps, parce que ce sont des choses qui sont relativement simples et où on peut trouver des régularités dans un contexte très précis. Mais si vous demandez à une machine de participer à un jeu dans une chambre d'enfant ou tout d'un coup, ils vont jouer à la dinette et puis pendant le jeu, y en a un qui va faire le cuisinier, mais comme il n'y a pas de vraie cuisine, il va falloir qu'ils prennent des bouts de bâton en imaginant que ça va être les cuillères, puis il n'y a pas de vraie chaise, alors ils vont prendre un livre, ils vont le poser par terre et dire assieds-toi sur la chaise. Pour que la machine comprenne dans un contexte comme ça que la chaise, ça va être le livre, il va falloir imaginer
très compliqué pour la machine.
Ça, c'est très 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 compliqué. Ça c'est beaucoup 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 plus compliqué que de jouer au jeu de Go, par exemple.
Pascal Pic.
J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est très clair. Les machines, alors ça va se développer, mais elles sont faites pour des tâches au départ qui sont précises. Par contre, dès qu'on appelle dans notre jargon l'évolution des exaptations, c'est-à-dire remplacer une chaise par un livre et l'utiliser comme une chaise, là, pour l'instant, les machines, ça va être très compliqué. Mais ce paradoxe, on appelle ça le paradoxe de Moravec, qui est un grand spécialiste grand spécialiste de robotique notamment. Et les roboticiens apportent une nouvelle approche intéressante comme Warwick ou Rodney Brooks. C'est-à-dire qu'ils avaient très vite compris que pour les machines, ça serait plus compliqué de faire des choses simples pour nous que des choses complexes. Donc on comprend que les gens ont un peu peur, et c'est pour ça qu'il faut bien insister là-dessus. Les gens qui jouent aux jeux de Go, les gens qui jouent aux échecs, les ingénieurs, les mathématiciens qui utilisent ces appareils, c'est des gens très intelligents, très diplômés. Et donc, on a l'impression de se dire, waouh, si les machines font ces choses que des gens plus intelligents que moi font...
C'est fini, elles vont nous dépasser.
Avant tout le reste. Mmh. Alors là, c'est complètement faux. Et donc, l'ingénieur inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus quelque chose est apparu il y a longtemps dans l'histoire de la vie et de l'évolution, c'est-à-dire comme marcher notre bipédie 2 millions d'années, ou dans une autre mastication, mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails, qui est incroyablement compliqué, etc., ça sera plus difficile pour les machines d'aller sur le chemin inverse de l'évolution. Et donc, c'est ça l'ingénieur inverse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès qui vont arriver très vite, bientôt, mais, et c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre, inscrire l'émergence des intelligences animales dans le cadre de l'évolution, et comment l'évolution des machines vont peut-être interférer rapidement. Donc, c'est des problématiques absolument extraordinaires d'un point de vue de la pensée, de l'intelligence humaine, que de faire cela. Mais derrière cette grande idée, c'est de se dire... Attention, et c'était très bien dit par Pierre-Yves, c'est qu'on a affaire à des formes d'intelligence différentes. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ces complémentarités, ces différences, ces similarités. Si on est capable de faire ça, on n'aura strictement aucune angoisse avec le monde qui vient.
Est-ce qu'il veut dire aussi, Pierre-Yves, vous voyez, qu'on se trompe peut-être parfois d'angoisse quand on pense à l'intelligence artificielle? On avait envie, je ne sais pas si on aura le temps, de vous passer des extraits de films de science-fiction, enfin que ce soit IA ou que ce soit iRobot, à chaque fois c'est terrible, jusqu'où pouvons-nous faire confiance à nos robots? Enfin, on a énormément de peur et d'angoisse par rapport à l'intelligence artificielle. Un de nos auditeurs nous dit, mais quel est son danger? Quand est-ce qu'elle va nous envahir? Elle a déjà finalement envahi nos vies à travers nos smartphones, tous nos outils. Finalement, on se trompe de peur, Pierre-Yves Houdéillé, quand on a des peurs sur l'intelligence artificielle?
Peut-être, parce qu'effectivement, nos peurs sont la plupart du temps inspirées de la manière dont les robots, les machines, les programmes d'intelligence artificielle apparaissent dans les films. Ouais. Dans les livres, en tout cas de la culture occidentale, et qui sont souvent sous la forme de quelque chose qui ressemble beaucoup à un être humain. C'est très anthropomorphique. Mmh. Et ça, effectivement, comme on vient de le dire, pour plein de raisons, à la fois on est très loin aujourd'hui d'avoir des machines qui ont une intelligence, mais aussi un corps qui a de près quelque chose à voir avec les humains, et on est probablement très loin de l'avoir dans le futur, et peut-être ça n'arrivera jamais, et peut-être que de toute façon ça n'a aucun intérêt. Par contre, aujourd'hui, dès à présent, comme je le disais, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils logiciels qui permettent d'aider les humains dans plein de contextes à prendre des décisions. Alors parfois, ça peut être extrêmement utile, ça peut être extraordinaire. Par exemple, dans le domaine de la médecine, ça peut permettre à des médecins de prévoir un petit peu mieux le développement d'une maladie ou de découvrir un nouveau médicament. Mais ça peut être aussi parfois, si ces outils sont mal utilisés, ça peut être aussi très dangereux. Par exemple, aujourd'hui, ces outils permettent dans le monde bancaire, de prédire quels sont les risques pour une personne de ne pas pouvoir rembourser son prêt, quels sont les risques de maladie pour peut-être décider si on va attribuer une assurance ou pas à quelqu'un, quelles sont les potentialités de développement d'un élève quand on va vouloir décider si oui ou non on l'accepte dans une école. Et le problème, c'est qu'on peut utiliser ces outils de manière très embêtante dans ces cas-là, parce qu'en général, comment ça fonctionne? Eh bien, par exemple, pour prédire si une personne a des risques d'avoir un accident bancaire ou de ne pas rembourser son prêt, eh bien on va donner des tas d'exemples de personnes dans une base de données dans laquelle il y aura par exemple leur catégorie socio-professionnelle, leur adresse, voire même parfois, ça devrait être interdit, mais c'est parfois fait, leur couleur de peau, leur genre, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Et puis la chose, c'est que si on fait ça comme ça, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a des biais qui ne sont pas du tout des causes, mais qui sont présentes déjà dans la société, comme par exemple le fait que d'habiter dans un certain type de quartier, d'avoir certains types de métiers ou d'avoir tel ou tel genre, bien ça va peut-être statistiquement augmenter la chance ou le risque de ne pas pouvoir rembourser son prêt.
Ouais, attention aux généralités, c'est ça finalement les peurs qu'on doit avoir, c'est attention à la manière dont on nourrit nos algorithmes et la manière dont on s'en sert. Voilà pourquoi vous travaillez pour amener justement les hommes et les machines à progresser ensemble, mais vous nous dites attention à certains usages de l'intelligence artificielle, mais nos peurs, elles ne se placent pas au bon endroit.
Exact. Elles ne se placent pas au bon endroit, et ce qui est très important, c'est que ces outils restent ouverts, ce ne soient pas des boîtes noires, et on les utilise de manière raisonnée, et c'est pour ça que l'éducation ici est très importante.
Pascal Pic.
C'est des grands enjeux d'ailleurs qui a émergé dans le rapport Villani, c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans la machine, parce que comme ça a été dit, on a fait les machines, mais grosso modo, il y a la manière dont les algorithmes travaillent, surtout dans ce qu'on appelle l'apprentissage profond, on ne sait pas trop ce qui se passe néanmoins. Donc ça pose des tas de problèmes de responsabilité sur les prises de décision. Donc je donne des tas d'exemples sur les biais. Tout simplement en prenant quatre espèces, les hommes et les quatre grands singes, gorille, bonobo, chimpanzé, orang-outan. La manière dont vous utilisez les données ou elles sont biaisées, vous avez une hypothèse radicalement différente sur les origines de l'homme. Pourtant, l'exemple est simple. Donc, l'analyse des données, c'est une science en soi, ce qu'on appelle les sciences des données aujourd'hui, ce qu'on appelle la systématique. Nous, ça fait quand même 3 siècles qu'on fait cela. On est très très forts, nous, les systématiciens, dans le domaine des théories de l'évolution pour travailler là-dessus. Mais vous voyez, donc là, c'était très bien dit. Par exemple, je donne l'exemple qui est hyper connu. Une femme qui était à Harvard, elle était blanche, donc hétérosexuelle, enfin standard, quoi. Grande professeure, et elle avait un nom un petit peu exotique. Donc, elle a fait une recherche sur Internet, et d'un seul coup, avec les algorithmes, on s'est aperçu qu'elle était classée chez les populations noires, à risque de délinquance, etc. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'il n'y a pas un seul fichier qui est biaisé. Mais inversement...
Oui, c'est un vrai problème, parce que là, ça catégorise des gens.
Mais c'est un problème de société, de citoyenneté et d'éthique. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien. Et il y a vraiment des recherches chez Facebook, chez FAIR, etc., chez Google, pour essayer de contrôler ces biais. Sauf qu'il n'y a pas un seul fichier qui est biaisé, puisque nous avons tous nos travers anthropologiques. Alors c'est là que ça peut aider, parce qu'il y a une étude qui a été faite sur les décisions des juges, je crois que c'est en Israël, où on s'aperçoit que si le matin le juge est de bonne humeur, son équipe de foot a gagné et que sa femme était gentille avec lui, le gars, il est vraiment de bon poil, et comme dirait un chimpanzé. Et ces décisions vont être quand même très objectives et équilibrées. Et puis quand arrive l'heure du déjeuner, là par contre, il commence à être un petit peu énervé avec les plaidoiries et toutes les bêtises qu'il peut entendre. Par contre, s'il a eu quelque chose qui n'allait pas bien, évidemment, là, pardon, ça va biaiser les décisions. Et l'intelligence artificielle peut aider en disant, attention, là vous induisez un biais. Donc voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ça montre bien que bah, derrière, c'est comme pour Schubert, il y a quand même des hommes et des femmes qui doivent être derrière ces machines, comment elles fonctionnent, et c'est pour ça que c'est une question d'éducation.
Puisque vous nous parlez de Schubert et que derrière, justement, il y a toujours des hommes, autour de la question comment vivre et créer en bonne intelligence, je propose de découvrir un nouveau type de collaboration, précisément, entre artistes, ingénieurs du son et intelligence artificielle. Les trois ensemble, extraits du disque Hello World. Ce morceau qui s'intitule Sensitive, tient donc, a été composé par SkyG, j'espère que je prononce bien, avec l'intelligence artificielle Flow Machine et le chanteur C. Duncan sur une inspiration bossa. Ça donne ça sur RFI. Sensitive, composé par Sky G et Flow Machine sur RFI. Voilà une association musicale entre un compositeur et une intelligence artificielle et un chanteur qui est un plus et qui ne nous enlève rien à nous humains. Au contraire, autour de la question, sommes-nous prêts à vivre en bonne intelligence avec les autres formes d'intelligence? Nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Oudéyer, chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives à l'INRIA, et du paléoanthropologue Pascal Pi, qui vient de publier L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Pour ne pas être les chimpanzés du futur, nouvelle question pour vous, soulevée par un philosophe, Charles Pépin, qui était récemment notre invité.
Alors j'ai une question pour toi Pascal, que je salue. Est-ce que tu crois que notre humanité se correspond exactement à ce qui de nous n'est pas machine, n'est pas prévisible, c'est-à-dire tout le rapport à l'ambiguïté, tout ce qui est l'objet de la littérature, tout le rapport à l'indécision, à la décision aussi. Est-ce que le savant que tu es, le primatologue aussi je crois, nous confirme cette idée que l'humanité au fond c'est l'ambiguïté et que le fait que nous ne puissions pas tout prévoir prouve que nous sommes encore humains?
Vous confirmez Pascal Pic et je poserai après la question à Pierre-Yves Houdic.
Ben absolument. Et derrière cela, c'est toute... Vous savez, une caractéristique de l'évolution de la lignée humaine, il y a beaucoup de caractéristiques, la bipédie, le gros cerveau, le langage, on dit des tas de choses, d'outils. Mais la chose la plus importante, c'est la cosmétique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait le genre, c'est-à-dire la capacité d'installer des médiations symboliques et esthétiques entre le monde et nous. Le langage en fait partie. Tout ce qui est la manière de transformer nos corps par les habits, les modes, la mode, c'est absolument essentiel pour comprendre le monde qui vient. D'ailleurs, je suis très content que vous ayez parlé dans cette émission de l'art. Regardez ce qui se passe dans le monde de l'art et dans le monde de la mode et vous verrez ce que sera le monde demain avec ses créativités. C'est là que ça se passe. C'est là que les images vont émerger et vont façonner le monde de demain. Donc c'est ça. Et puis, soyons très clairs, l'évolution sur quoi ? C'est quoi l'évolution ? Ça a toujours été ça, l'intelligence de l'évolution, entre guillemets, mais de l'adaptabilité. C'est toujours être capable de, en fait, avec le maximum d'intelligence possible, de gérer l'incertitude. C'est ça qui fait de nous les humains. Et là, je veux dire une chose, c'est très important. Parce que les machines, aujourd'hui, sont capables de détecter nos comportements, nos émotions, sans connaître les émotions. Ce qu'on appelle les causes immédiates. Et ça, c'est très embêtant parce que les machines ne vous jugent pas sur les causes, hein, elles vous jugent sur les faits. Je donne un exemple très rapide. Je suis à moto, je suis motard, il y a quelque chose qui se passe pas bien sur l'autoroute. Si je pile avec ma moto, je termine en sandwich. Donc j'accélère, je dégage. Ça se passe bien, sauf qu'il y a un radar. Donc là, je suis pénalisé. Ben, la machine me dira, j'ai fait une faute. Par contre, l'essence même de l'humanité et de la justice, c'est de se dire, quel que soit le fait que vous avez commis, quelles sont les causes. Et donc, c'est pour ça que nous garderons notre humanité tant que nous serons capables d'aller avoir du discernement sur les causes ultimes, non pas que sur les causes immédiates.
Pierre-Yves Oudéyer, vous partagez aussi ce propre de l'humain qui serait l'incertitude, l'indécision?
Alors non, je ne le partage pas parce que je pense que le commentaire que nous avons entendu eh bien reflète malheureusement une mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça peut être une machine. Une machine, ça n'est pas forcément quelque chose qui est prédictible. Une machine, ça n'est pas quelque chose qui forcément peut tout le temps prendre une décision. D'ailleurs, aujourd'hui, les modèles, les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont développés reposent fondamentalement à la fois sur la capacité à générer de l'aléatoire pour fonctionner, et deuxièmement, elle repose fondamentalement sur l'objectif qui consiste à justement être capable d'agir, de reconnaître des choses dans des environnements où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc l'incertitude aujourd'hui, elle est vraiment au cœur du fonctionnement des machines d'intelligence artificielle. Donc, la question n'est pas vraiment là. L'incertitude, c'est évident qu'elle elle est fondamentale chez les êtres vivants aussi. Oui. Mais elle concerne aussi les machines, fondamentalement. Donc la question n'est pas de savoir si
oui, notre humanité tient notre ambiguïté.
Voilà, c'est pas ça. Mm-hmm. La question est plutôt de savoir quel type de machine... et bien finalement font partie les êtres vivants sont, de certaine manière sont des machines moléculaires, sont des machines à penser, sont des machines à vivre, mais à partir du moment où leur existence repose sur les lois de la physique et de la biologie, ben c'est ça qu'on appelle une machine. Elles ne seraient pas des machines, et c'est possible d'ailleurs, c'est une hypothèse possible, si leur comportement dépendait de certaines forces qui d'une certaine manière ne venaient pas de l'univers physique. Alors aujourd'hui les sciences ont du mal à imaginer comment ça serait possible. mais il y a d'autres hypothèses qui sont possibles. Donc la question n'est pas de savoir si les humains sont ou ne sont pas des machines. Les humains sont des êtres vivants et les êtres vivants sont dans le monde physique. Le monde physique tel qu'on le comprend par les sciences aujourd'hui, eh bien ce sont des machines extraordinairement compliquées où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc la question c'est plutôt quel type de machine, quel type d'incertitude.
Quel type de machine, quel type d'incertitude et quels choix nous ferons? Comment elles peuvent être à notre service ou dans un but commun en tout cas? C'est ce pourquoi vous travaillez.
Oui, tout à fait. Il y a aussi deux manières de voir aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il y a une première manière qui est, c'est un outil cognitif pour mieux comprendre l'intelligence. Et puis la deuxième chose, c'est un outil cognitif pour nous aider à réaliser certaines tâches de manière plus créative, plus efficace. Et comme tous les outils, si ces outils sont mal utilisés, ben ça peut aussi avoir des impacts négatifs, comme on le discutait tout à l'heure. Mais il y a aussi des opportunités extraordinaires, hein, comme on en parlait, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, par exemple, aujourd'hui. Quelque chose qui est un défi énorme pour l'éducation, eh bien, c'est le fait que chaque enfant est différent. Chaque enfant a besoin d'une manière de lui expliquer des concepts de mathématiques, des concepts d'histoire, des concepts de langue étrangère, de manière différente. Et sauf que la problématique, c'est que quand on est dans une classe, un professeur, ben, il a en face de lui 30 élèves, voire parfois plus. Comment il fait pour avoir une manière de personnaliser avec chaque enfant? Bah aujourd'hui, par exemple, il y a différents projets de recherche qui essayent de donner comme outil pour l'enseignant et pour les élèves et bien des logiciels qui vont essayer de repérer les régularités, les manières de fonctionner de chacun et qui vont leur suggérer des exercices et des séquences d'exercices qui vont être uniquement faites pour eux. Et donc ça, c'est un outil qui peut permettre d'aller vers beaucoup plus de personnalisation et peut-être justement de permettre à des enfants qui aujourd'hui sont pas dans le moule scolaire, et bien néanmoins de s'épanouir.
Ça fait partie des promesses, mais aussi du bon usage de ces outils que nous fabriquons, parce qu'elle pique la conclusion.
Mais c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on rentre dans une logique de masse de plus en plus personnalisée grâce à ces outils. Maintenant, sur l'incertitude, il y a toute une partie du livre où je parle aujourd'hui de darwinisme artificiel, où là, en effet, vous avez des algorithmes qui sont auto-apprenants, qui installent de l'aléatoire, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un monde vraiment darwinien au sens des concepts de Darwin, sélection naturelle,
variation. Tout évolue ensemble, toutes ces intelligences évoluent ensemble.
Oui, mais l'Internet des objets, par exemple, et là, c'est en train d'éclater à toute vitesse, c'est l'intelligence, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas consciente, des écosystèmes, qui là aussi évoluent très vite. Et là, on peut parler d'incertitude, si on veut, avec des guillemets une fois de plus, mais là, on ne sait pas comment ça va évoluer, on essaie de le suivre. Et puis moi, ce qui m'a frappé en faisant ce livre,
encore dans l'incertitude.
C'est que plus que jamais, l'anthropologie là. Ça veut dire quoi? La manière dont les pays ou les cultures dans le monde, entre les Japonais et nous, regardent les animaux, les machines, sont radicalement différentes. Donc nos technologies, comme c'était très bien dit, dans tous les domaines, nous allons connaître des changements qui ne vont pas, au contraire, faire un monde complètement uniforme, mais simplement offrir complètement de nouvelles possibilités en fonction des grandes traditions culturelles ontologiques des populations humaines. Donc l'évolution repart.
C'est le mieux que l'on puisse nous souhaiter. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur toutes ces intelligences à faire collaborer. Pour en savoir plus, je renvoie donc à vos livres, Pascal Pic, et en particulier à ce dernier essai qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, pour ne pas devenir justement les chimpanzés du futur, pour une anthropologie des intelligences. Et puis je rappelle aussi Pierre-Yves Houdeillet, chez le même éditeur Odile Jacob, votre ouvrage Source de la parole, il y a une version anglaise qui est prévue avec une mise à jour de ce livre. Merci Pierre-Yves Houdeillet d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux.
Merci beaucoup.
Et ben, vous revenez quand vous voulez, on n'a pas fini de parler de toutes ces intelligences artificielles ou naturelles.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour nous intéresser à une autre longue histoire de coévolution entre les hommes et les chiens. Autour de la question, pourquoi l'histoire des chiens raconte aussi celle de notre humanité, à suivre avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Merci de votre fidélité et surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, dans une minute, ce sera l'heure du prochain journal.